Le journal Mimi Ngumba.
Les titres du journal: des actes criminels de plus en plus enregistrés dans la localité de Luinja au sud Kivu. L'arrivée d'un commandant région dans cette province pourrait remédier à la situation. Des documents de la CEI retrouvés dans la rue ce matin à Kisangani. Réponse du responsable local de la CEI dans ce journal. La cité de Mbanzangungu dans le Bas-Congo a aujourd'hui 100 ans. Le vice-président Yerodia Abdoulaye Ndombassi était présent à la célébration de ses centenaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sud Kivu, les forces armées de la RDC inquiètent la population de Luinja, 80 km à l'ouest de Bukavu, dans les territoires de Mwenga. Quelques semaines après avoir chassé les combattants hutu-rwandais, les militaires FRDC ont détruit plusieurs maisons, investi l'église et la maison du chef de collectivité intérimaire. Ils ont aussi commencé à prélever des taxes et commettre de vols. Pour contrer ce désordre, la 10e région militaire attend toujours son nouveau commandant après plus de 3 semaines d'intérim. Son commandant adjoint chargé des opérations affirme être limité dans ses prises de décision. Lieutenant-colonel Bolingo Matani au micro de Sophie Badera.
Nous venons à peine d'arriver et nous sommes en train de s'inquiéter de la situation en général de la 10e région militaire. Nous avons une mission de sécuriser toute la province. Nous allons d'abord recueillir des renseignements de tout ce qui se passe dans la région. Et en fait, nous allons prendre des mesures. Mais comme nous sommes des adjoints de la région, il y a de ces décisions qui requièrent du commandant région qui n'est pas encore arrivé. Il y a des mesures que nous pouvons prendre qui relèvent de notre responsabilité. Mais il y a d'autres aussi, bien sûr, que nous allons demander l'aval du commandant région titulaire. Je crois qu'il arrive incessamment, mais je ne sais pas exactement s'il arrive quel jour.
Rappelons que le chef d'état-major de FRDC avait annoncé la semaine passée sur les ondes de Radio Okapi que les commandants de la 10e région militaire allaient se rendre à Bukavu dans les 48 heures. À Kinshasa, le réseau national des ONG de droits de l'homme appelle le gouvernement congolais à une enquête urgente sur la mort de Pascal Kabungulu. Cet activiste de droits de l'homme, enterré hier lundi, a été assassiné le week-end dernier à son domicile à Bukavu. Le RENADOC demande aussi au gouvernement de sécuriser tous les défenseurs de droits de l'homme à travers le pays. Béang Guindou, coordonnateur de ces collectifs, joint au téléphone par Georges Kamujova.
Que notre pays puisse appliquer la déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, ils ne font que traduire la volonté de la population pour tout ce qui est violation, tout ce qui est atteinte à la dignité de la personne humaine. Mais comment expliquer que des personnes en uniforme, avec des armes, puissent attenter à la vie de certaines personnes? Ces personnes-là sont menacées, sont arrêtées, sont torturées et cela ne donne pas une capacité à ces gens-là qui se sont voués à la cause de l'homme à pouvoir bien faire leur travail parce qu'ils sont dans l'insécurité pour leur propre vie, pour la vie de leurs enfants, pour la vie de leur famille, même pour le travail qu'ils sont en train de faire. Il faudrait qu'on sécurise les défenseurs des droits de l'homme.
Sachez que plus de 2000 personnes ont participé hier lundi à une marche silencieuse à la mémoire de Pascal Kabungulu Kibembi. Le manifestant, essentiellement des étudiants, ont parcouru les rues de Bukavu à l'appel du Bureau de coordination des organisations des défenses de droits de l'homme de la province. Dans le Bandundu, c'est la fin de la clandestinité pour le journaliste animateur de la radio Concorde. Olivier Kibala a repris sa vie normale ce mardi, mais la police Bandundu tient à le poursuivre en justice pour diffamation. Selon l'Union nationale de la presse congolaise, section Bandundu, Olivier Kibala a été entendu ce mardi, tour à tour par la police et les parquets de grande instance de cette ville. Avant sa clandestinité, l'animateur de l'émission Changeant des mentalités avait dénoncé les vols par la police Bandundu des vaches appartenant aux particuliers. Accusation rejetée par la police. Province orientale à présent, des documents portant mention de la commission électorale indépendante ont été découverts jetés dans la rue tôt ce matin à Kisangani. Ce fait a alimenté les rumeurs dans la ville, d'autant plus que certaines langues accusent des soldats de la garde présidentielle de s'être fait enrôler. Explication avec José de Chartemenga.
Tout est parti du rond-point du canon situé en plein cœur de la ville. Des passants découvrent des documents portant mention de la CI jetés par terre. Quelques minutes plus tard, des services de renseignement de la police emportent ces documents. Interrogé à ce sujet, le coordonnateur provincial de la CI a précisé qu'il s'agit de cartes d'électeurs invalides utilisées dans la formation des opérateurs de saisie. Le professeur Jean Otemikongo Mandefou déplore cette situation et accuse des opérateurs de saisie d'avoir commis cette maladresse. Selon lui, ces documents devraient être détruits tout de suite après usage. Au sujet des soldats de la garde présidentielle, la CI précise, sans cependant les citer, que ce sont des partis politiques qui rapportent ces faits. Selon la CI, ces partis accusent 10 personnes qui se sont faites enrôler dans un centre de la commune de Mangobo d'être des soldats de JSSP cantonnés vers la Sotexki. Selon les coordonnateurs de la CI, ces gens seraient des civils et travailleraient à la présidence de la République. Ils seraient donc en mission à Kisangani. Toutefois, une enquête est ouverte à ces sujets. L'armée, la police et les services des renseignements sont impliqués dans cette enquête. Kisangani, José Deschartemenga, Radio Okapi.
Dans la province du Katanga, 4 ans après l'assassinat des 2 leaders politiques de l'Union de fédéralistes et républicains indépendants UFERI, la Cour suprême de la RDC a rendu le 27 juillet dernier un verdict dans lequel tous les principaux accusés sont acquittés. Même ceux qui étaient passés aux aveux ont été blanchis. Tout de suite après le verdict, les 2 veuves Kioni et Lukonde ont publié un communiqué de presse où elles marquent leur mécontentement. Veuve Kioni pense surtout qu'au Katanga comme ailleurs en RDC, les hommes politiques puissants peuvent commettre des crimes sans que leur forfait soit sanctionné. Elle est au micro de Donna Chimboge.
Je suis contre ce verdict parce qu'il n'a pas répondu aux questions fondamentales qui sont, premièrement, qui a tué ? Pourquoi on a tué ? Je suis encore contre ce verdict parce qu'on a acquitté les gens qui ont fait des aveux. Je suis contre ce verdict. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que dans notre pays, les gens qui s'estiment au-dessus des lois éliminent les autres adversaires politiques et ils restent impunis.
Avec ce verdict, l'affaire Lukonde et Kioni revient à nouveau au devant de l'actualité à Lubumbashi. Donna Chimboge fait le rappel de faits qui remontent en avril 2001.
Ce qui convient d'appeler l'affaire Lukonde au Katanga refait à nouveau surface après 4 ans de batailles juridiques. À l'époque, l'affaire avait défrayé la chronique à Lubumbashi. C'est dans une nuit froide du mois d'avril 2001 que les 2 hommes avaient trouvé la mort dans une embuscade alors qu'ils revenaient d'une réunion politique à Kipushi, une localité à 30 km de Lubumbashi. Peu de temps après, la police locale appréhendra des supposés responsables du crime. 3 hommes, dont 2 militaires et 1 civil, seront même présentés à la télévision locale où ils passeront aux aveux sans révéler le ou les noms des commanditaires. La cour d'ordre militaire, qui traitera les dossiers par la suite, pointera du doigt à la fin des investigations préliminaires M. Jacques Muyumba, vice-gouverneur de l'époque, comme étant commanditaire du crime. Mais étant incompétent de les juger, il va transférer les dossiers à la Cour suprême à Kinshasa. A titre de rappel, Lukonde Kyenge et Kioni, qui laissent 2 veuves et plusieurs enfants, étaient 2 leaders de l'Union des fédéralistes et des républicains indépendants, UFERI, pressentis candidats au poste de gouverneur du Katanga, vacant à la suite de la nomination de son titulaire, Katumba Mwanke, comme ministre. Ils étaient donc des concurrents sérieux et gênants pour certains politiciens et candidat au même poste. Donna Chimboge, Lubumbashi, Radio Okapi.
Maniema, les activités économiques du territoire de Pugna fonctionnent au ralenti. Cela depuis que les négociants de la cassiterite ont fermé leur comptoir. Fermeture due à la baisse depuis le mois dernier de ce minerai. Maintenant, les avions en provenance de Goma, seule ouverture commerciale de ce coin, n'arrivent plus. La population et les commerçants pour vivre préfèrent quitter Pugna au profit de carrières de diamants. Un reportage signé Dieudonné Toumba Mobilé.
Tout devient cher et rare sur les marchés à Pugna. C'est quelques 15 000 habitants ont des difficultés de se nourrir tellement que les prix des produits vivriers ont galopé. Monsieur Gustave Kingombe Mustafa est l'administrateur du territoire de Pugna.
Et comme en ces jours, il y a baisse de la production de la cassiterite dans le territoire de Pugna, cette diminution de la production fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de rotations commerciales. Par ces rotations commerciales, que le territoire est facilement ravitaillé.
Face à cette situation, 4 à 5 000 personnes viennent de quitter Pugna pour s'installer à 60 km vers l'est dans la localité de Macanio où il y a une carrière de l'exploitation artisanale des diamants. Mais pour l'administrateur du territoire de Pugna, le fait de changer de l'exploitation de la cassiterite à la conquête du diamant pose de nombreux problèmes pour tous. C'est notamment le fait que les creuseurs de Macanio deviennent de plus en plus victimes des tracasseries militaires. De Kindu, de Donné Toumba Mobile, Radio Okapi.
Kasaï Oriental, deux accidents de circulation attribués à l'ivresse au volant font un mort et deux blessés dimanche dernier à Mbujimayi. La police spéciale de roulage se dit incapable de prévenir pour le moment ce type d'accident. Cela faute de moyens de détection du degré d'alcool chez les conducteurs. Chris Mukand.
Le premier accident s'est produit tôt le matin sur la route Mbujimayi Ngandashika, faisant un mort et un blessé. Tard dans la soirée, un véhicule roulant à vive allure finit sa course dans un poteau électrique. Au passage, il heurte un garçon, lui fracture la jambe gauche. Quatre bouteilles de bière sont retrouvées dans la boîte à gants de la voiture. Selon le commandant de la police spéciale de roulage, Major Chimbila Jibikila, la cause majeure des accidents en Mbujimayi est l'ivresse au volant. Les autres causes souvent répertoriées, telles que imprudence du chauffeur ou excès de vitesse, ne sont que des conséquences de l'état d'ébriété. Il indique par ailleurs que le mois de juin a enregistré une nette augmentation de cas d'accident par rapport à mai, soit 31 contre 19. Mais tous les chauffeurs ne l'entendent pas de cette oreille. Un taximen explique.
Moi, je crois que les parquets, ici en Mbujimayi, nous avons des petites routes et que nous on fait des petits croisements là à 5 cm. C'est ça ce que moi je sais, ce que moi je vois ici, ce n'est pas l'ivresse ou l'ivrognerie qui cause des accidents ici à Mbujimayi. Nous avons des bons chauffeurs et de plus par la plupart des chauffeurs d'ici à Mbujimayi, nous avons des bons chauffeurs, ceux qui est venu du Shaba et qui sont bien formés. Ce n'est pas l'ivresse ou quoi. C'est de petites routes, nous avons des petits croisements, c'est tout.
Le commandant de la police spéciale de roulage Kasaï Oriental reconnaît que pour l'instant, il est difficile de prévenir les accidents dus à l'ivresse au volant, son département étant dépourvu de moyens de détection du degré d'alcool chez les chauffeurs. Mbujimayi, Chris Mukande, Radio Cap.
Retour à Kinshasa où des fournitures scolaires ont été remises aux écoles conventionnées catholiques et islamiques par le gouvernement tunisien. C'était aujourd'hui au centre interdiocésain de Kinshasa. Ce don est une interpellation aux Congolais de veiller à la scolarisation des enfants, estiment les coordonnateurs des écoles conventionnées islamiques. Aboubakar Sabiti au micro de Georges Kamoudjova.
Le Congo n'est pas un pays qui doit vivre des aides extérieures. Le Congo est un pays qui doit faire un effort de nationalisme intégré pour que tout ce qu'il faudra aux Congolais puisse subvenir à leurs besoins à l'intérieur. On en a les moyens. Moi, je pense que c'est un geste qui doit interpeller tous les acteurs, tant politiques que ceux des organismes non étatiques, pour essayer d'asseoir la formation de nos enfants. Le futur de demain dépend de nos enfants, sans lesquels nous ne serons rien. Non seulement le gouvernement, mais tous les partenaires doivent comprendre les cris d'alarme de l'enfant congolais qui souffre de la scolarisation, pour intervenir non seulement dans le domaine des matières didactiques, mais aussi dans la réfection des bâtiments qui ont été écroués par la guerre, dans la reconstruction des autres bâtiments, par le fait qu'il y a même une forte croissance démographique des enfants qui sont démunis, qui n'étudient pas. C'est autant de domaines auxquels nous sollicitons le concours de tous les acteurs politiques et non étatiques de pouvoir intervenir.
Pendant ces temps, Médecins sans frontières suisse vient d'annoncer l'arrêt de ce programme d'aide dans les restes du district de l'Ituri. Ce programme va se poursuivre uniquement dans la ville de Bounia. À la base de cette décision, indique MSF Suisse, la poursuite de la violence qui ne permet pas de porter assistance humanitaire à la population. Cet arrêt de l'aide est la conséquence directe de l'enlèvement des deux membres de MSF le 2 juin dernier. 1905-2005, 100 ans déjà que Mbanzangungu existe comme entité administrative. Les centenaires de ces territoires du Bas-Congo, autrefois appelé Tisville, a été célébré hier lundi en présence de Yerodia Abdoulaye Ndombassi, vice-président de la République en charge de la reconstruction et développement. Mais que représentent ces territoires pour la province du Bas-Congo et pour le pays? La réponse dans ce reportage signé Dona Madimba.
C'est Albert Tis, aide de camp de Léopold II, roi des Belges, qui fonde en 1905 Mbanzangungu, qu'il baptise alors Tisville. Ce nom tiendra pendant plus de 60 ans pour devenir Mbanzangungu, avec la débaptisation du pays qui cessera en 1972 d'être République du Congo pour devenir République du Zaïre. Sur le plan politico-administratif, Mbanzangungu est le chef-lieu du district des Cataractes, l'un des trois districts de la province du Bas-Congo. Ce territoire d'environ 500 000 habitants abrite non seulement l'université Congo, l'une des rares universités privées du district, mais aussi le camp Ebeya, ex-camp Hardy, et le camp FATBL, deux camps militaires d'envergure. Le camp EBA, par exemple, a formé il y a encore quelques années de nombreux cadres militaires du pays, mais aussi de plusieurs pays d'Afrique noire. Sur le plan économique, ce territoire régorge de quelques sites qui peuvent intéresser l'industrie du tourisme, comme les lieux où Simon Kimbangu fut jugé et mis en prison. Mbanzangungu demeure le lieu où se cultive la grande majorité de légumes qui sont vendus et consommés à Kinshasa. Depuis Matadi, Dona Madimba, Radio Okapi.
À l'étranger, chef de guerre pendant plus de 20 ans, vice-président pendant 3 semaines, John Garang sera inhumé samedi à Djouba, la ville qu'il avait choisie au sud du Soudan pour en faire sa capitale. Et ses proches, venus lui rendre hommage, ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer pour la paix. Par ailleurs, les émeutes qui ont éclaté lundi à Khartoum après l'annonce officielle de la mort de John Garang ont fait au moins 42 morts selon des sources médicales.